des livres plein les oreilles. Et invariablement, ça nous met de bonne humeur, cette petite musique-là. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une fois encore l'émission des livres plein les oreilles, avec énormément de titres encore à vous présenter aujourd'hui, grâce à la participation aimée de Gérard Saint-Denis, de Sophie Bienvenue, qui revient pour la deuxième fois et dont on aime tellement les œuvres et dont presque tous les livres ont été enregistrés pour vous. Il y a également l'ami Robert Chartier qui sera là, c'est une première. Bonjour Robert.
Bonjour.
Robert qui est, vous avez entendu cette voix de velours, Robert est bénévole ici chez Vues et Voix, voilà, je vais finir par le dire. Et puis aussi on va retrouver Hélène Gauthier qui est une bibliothécaire du Service québécois du livre adapté qui va venir nous parler de quelques nouveautés. Alors, on commence avec l'inénarrable, l'incontournable.
Faites-moi pas rire, madame.
Gérard Saint-Denis. Ça va, Gérard?
Oui, je vais vous dire, oui. Moi, je vais être obligé de vous ramener à il y a longtemps.
Oh, ben allez-y donc.
Oui, mais je trouve ça intéressant.
D'accord, alors allons-y.
C'est avec notre auteur préféré qui est Max Gallo, oui. Qu'on connaît bien. Mais il y a des choses formidables.
Bon.
Je prends un exemple des Romains.
Les Romains.
Cinq volumes sur les Romains.
Cinq.
C'est à peu près 8 heures chacun, à peu près 8 à 9 heures, ça dépend.
Oh.
Mais vous savez, Max Gallo, je vous le dis avant, là, c'est un petit peu comme notre Henri Guillemin, quand on l'écoute.
Ah oui?
C'est un poète de l'histoire. Fait qu'on n'a pas l'impression. Moi, à l'âge qu'on a, là, et vous aussi, malgré que vous êtes jeune, vous avez étudié l'histoire, puis c'était des livres en histoire, puis c'était quand même la littérature historique.
Oui.
Tandis que lui, c'est un romancier de l'histoire. C'est ça qui est intéressant. On embarque là-dedans, puis on a l'impression d'être là.
Oui.
Fait que le premier, c'est Spartacus. Spartacus,
oui.
qui a été le premier à se révolter, la révolte des esclaves. Il faut penser que ces événements-là se sont passés dans les années 73 et 71 avant Jésus-Christ.
Oui, c'est ça. On ne parle pas de 1973.
Non, on parle avant zéro.
Bien sûr.
C'était le début. C'était le début de l'ère romaine.
Oui.
Et, bon, Spartacus, il a fait des choses. Vous allez voir là-dedans, tous ces livres-là, il y a de la guerre.
Ouais, oui.
Il y a des tueries.
Ouais.
Il y a des élans d'amour. Il y a toutes sortes de choses qui se passent.
Mais
c'était vraiment les débuts de l'ère romaine. C'est ça qui était important de savoir.
D'accord.
Donc, je commence avec, j'ai parlé du premier qui était intéressant. Le deuxième, c'est Néron, qu'on a entendu parler un peu. Lui, c'était l'Antichrist. Lui, on le sait.
L'Antichrist.
Il a vécu entre 37 et 68. On s'en vient. On se rapproche de chez nous, là. On se rapproche de nos années, là. Et il a été roi entre 54 et 68. Et c'était un bonhomme qui était vraiment un empereur qui était jeune, qui était exhibitionniste, qui fonçait et qui a fait des choses un peu difficiles. Bon, il a tué sa mère, puis il a tué son frère. T'sais, c'était pas plus grave que ça. C'était comme ça. Sauf que la façon que c'est décrit, là, c'est pas sanglant. C'est sanguinaire,
non.
D'accord.
Non.
C'est fort intéressant quand même. Et il a accédé. Bon. Le troisième que je vais vous parler, c'est Titus.
Titus.
Des Juifs.
Bon.
Parce qu'il y avait quand même vous savez, on n'a pas changé aujourd'hui. Les guerres sont occasionnées par quoi? Par les religions. On le sait, là. Toutes les guerres qu'on vit, que les gens qui nous écoutent le savent très bien. Et dans ce temps-là, c'était la même chose. Quand on dit que l'histoire se répète, c'est très vrai.
L'histoire
bégaye, les années 100, 200, 300, 400, là, à peu près, dans cette période-là que je vous parle. Et c'est encore des guerres entre les Juifs, entre les chrétiens, entre les païens. Et c'était pour Jérusalem. Et c'est ça. Ça n'a pas changé l'histoire. ça n'a pas changé.
Mais là, c'est surtout sur le martyr des Juifs, hein, je pense, hein, le tome 3.
Le titre, il était tough, il était très dur. Mmh. Après ça, il y a Marc Aurèle.
Oui.
Marc Aurèle, c'était le martyr des chrétiens. Lui, il était dans la période 121, puis il est mort en 180. OK? Les chrétiens et au lion, c'est ça qu'ils entendaient. La foule criait toujours ce qui venait vraiment de la foule, les chrétiens au lion. On s'imagine un peu que ça peut être. On pense à notre stade olympique. Si on décidait de faire ça, ce serait beau de voir ça. Non, mais je fais
On est dans les arènes, là, à ce moment-là, sanglantes, mais sauf que ce sont des humains.
Des humains qu'on tuait, etc. Mais il y avait quand même une. Il était un intellectuel.
Marc Aurèle,
Ah oui, c'était le plus intellectuel. Et ça m'amène à une chose, ça m'a amené à penser une affaire, parce qu'on dit, les intellectuels, ils ont quand même pas été à l'université, là, ces gens-là. On est dans ces années, des années 160. Savez-vous que la première université qui a été inventée est apparue en 1089 à Bologne. OK? Italie.
En Italie.
Et la deuxième, c'est Oxford. En 90, après ça, c'est Paris en 1100. Parce qu'on n'était pas encore dans les universités, mais on avait quand même des gens qui étaient pouvaient être des intellectuels, des gens très
érudits.
Épris, oui, de la vérité, de savoir, de connaître l'histoire, de connaître la société. Le dernier dans cette catégorie-là, c'était Constantin le Grand. Il a terminé, il est né, lui, en 272. Il a vécu jusqu'à 337. Et il a eu un règne d'une trentaine d'années, à peu près 31 ans, à peu près.
Autrement dit, il a régné très jeune et il est mort très jeune.
Oui, c'est ça. Et Max, écoute, il l'écoute bien, il décrit très bien, il s'interroge. Et puis, on peut dire qu'on a côtoyé Constantin, c'est quand même un habile et cruel. C'est un gars qui avait la foi et les cultes, qui croyait à ça au coton. Ils étaient très, très impliqués, ces gens-là. Même s'ils étaient des gladiateurs, ils étaient quand même impliqués. Mais ça, c'est cinq personnages qui ont vécu pendant 400 ans, à peu près, là, 400 à 500 ans, et qui ont été dans l'ère de l'Empire de Rome.
Et donc, la série, en général, s'appelle la série Les Romains, de Max Gallo?
C'est ça, Les Romains.
D'accord.
C'est Max Gallo.
Bon, d'accord.
Ces cinq romans, là, que je vous ai mentionnés,
oui.
S'il y en a qui ne veulent pas les lire, mais qui voudraient avoir une histoire de la...
Abrégée?
Ils pourraient apprendre quand même, pour mieux comprendre la culture sociale, politique en Italie entre les années 73 et 400. On peut lire la chute de l'Empire romain vers 450, 476, ça s'est fait par Gallo, Max
par
Gallo.
Max Gallo.
On l'a au SQLA, bon. Et c'est un résumé.
D'accord.
Si vous voulez pas lire les cinq volumes,
d'accord.
Mais il est disponible pareil. Non. Et j'invite nos gens à mettre le mot Gallo comme auteur, et voir aussi tous les autres ouvrages.
Oui, G.A. de Zello, c'est énorme. Mais est-ce que vous saviez qu'il est décédé il n'y a pas longtemps?
Oui, c'est ça, en 2017. Moi, j'ai suivi beaucoup parce que j'avais la chance par AVH d'avoir ses derniers écrits.
Tout de suite,
quand ils sortaient, je les avais tout de suite.
Oui,
mais ceux-là, je les ai tous trouvés au SQLA, il n'y a pas de problème.
Bon, ben c'est parfait.
Et c'est un appel. Je vais vous dire que je vous reviendrai plus tard, probablement que ça donnera, et vous me demanderez de vous parler des rois, parce que j'ai commencé une histoire, je commence à lire sur les rois de France.
Oh boy, et tous les Louis et tous les Charles et tous les...
Bon. C'est ça, les Louis, on est ça.
On va se laisser là-dessus, mon cher Gérard. Je vous remercie beaucoup. C'était une très bonne idée que de nous arriver avec...
On retourne en antiquité.
Voilà, oui, mais ça fait... De toute façon, vous savez, on a énormément d'auditeurs qui adorent l'histoire.
Il faut mieux comprendre.
Exactement. Merci Gérard, je vous souhaite une belle fin de journée.
Oui. Bonne lecture.
Merci à vous aussi, une
et
bonne
bravo
lecture.
Bravo à vous inviter. Salut bien.
Salut bien. Je rappelle peut-être aux gens qui se joindraient à nous, qui ne connaîtraient pas l'émission, que l'émission commence toujours avec une personne non-voyante et que ces gens-là nous parlent de livres qu'ils ont donc entendus. C'est le cas de Gérard Saint-Denis qui s'est tapé, si vous me permettez l'expression, la collection entière de Max Gallo qui est consacrée aux Romains. On va revenir à notre époque, quoique c'est aussi avec une personne qui est disparue assez récemment, et on va écouter le petit bout d'une chanson parce que c'est une chanson qui est bien importante dans le texte, dans le livre que va venir nous présenter aujourd'hui Sophie Bienvenue.
Amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi si et persiste, résiste.
Difficile de rester assise sans bouger en entendant un extrait de cette chanson chantée par France Gall, une chanson de Michel Berger bien sûr, qui s'appelle Résiste et qui fait partie d'un des livres dont nous allons parler aujourd'hui avec Sophie Bienvenue, qui est autour d'elle. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Je suis ravie que vous ayez réaccepté cette invitation-là, d'autant plus ravie que ce n'est pas un mais deux livres qui sont maintenant accessible en plus de tous les autres au SQLA. Et avant de parler d'autour d'elle, moi qui est le dernier que j'ai lu, il y a aussi « Ceci n'est pas de l'amour ». Et ça, c'est un petit peu différent. On n'est plus dans l'univers du roman. Hein. Et ça vient d'arriver aussi. C'est tout chaud, tout beau au SQLA.
Oui, c'est de la poésie.
C'est vraiment de la poésie.
Oui, oui. Donc, je suis allée complètement ailleurs de ce que je fais d'habitude. C'est mon premier.
Oui,
et c'est un petit peu plus dur que mes romans aussi là, c'est oui, c'est pas très gay.
OK. Bah remarquez, j'ai jamais on peut pas dire qu'on rit non plus terriblement à vos romans, mais
c'est vrai.
Mais je dis pas qu'il y a pas d'humour par exemple, parce que parfois il y en a là, j'en ai noté notamment dans, mais c'est vrai que c'est quand même assez sombre.
Oui, bah imaginez
univers.
Que la poésie est pire. On lit pas ça. Moi j'ai en général, je me souviens que je suis allée à l'émission de télé de Marc Cassivi, puis qui me dit, comme j'ai lu ton recueil de poésie ce matin, il me dit, tu m'as gâché ma journée. Je m'excuse. Je suis désolée. Mais disons que c'est très, très dur, en fait. Ouais. Pas triste, mais très dur.
Sur quel thème?
Sur le thème de... On est là-dedans du viol, de l'inceste, de toutes les façons possibles de tuer une femme, disons.
En effet.
Donc, on n'est pas dans la... Ça ne se lit pas à la plage, disons.
Non,
ça
non,
pas à la
mais en tout cas, une poésie importante. D'ailleurs, je pense que c'est un pléonasme, ce que je viens de dire, une poésie importante. Mais enfin, donc, de la poésie signée Sophie Bienvenue. Sophie Bienvenue, dont vous pouvez d'ores et déjà noter les titres des livres. Il y a et au pire on se mariera, qui vient de faire l'objet d'un film,
oui,
réalisé par Léa Paul. Et dont nous avions parlé ici à l'émission. Il y a aussi Chercher Sam, le tellement touchant Chercher Sam. Lucie le chien, ça c'est un petit peu moins connu.
Oui, oui. Et puis lui, il est drôle en fait. Lui, c'est mon premier livre qui était un blog que j'avais en 2003 et qui a été publié 3 ans plus tard. Et lui, c'est des chroniques anthropomorphiques où mon chien qui est morte aujourd'hui parlait de sa vie.
Oh, la petite Lucie. Et puis, autour d'elle. Donc, autour d'elle que moi, j'ai dévoré en l'espace de quelques heures. Écoutez, je me suis demandé à un moment donné comment j'allais réussir à parler de ce livre-là, mais je me suis dit, regarde, il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, alors il n'y a pas de raison, tu vas y arriver. D'abord, vous dire que le titre dit tout, c'est qu'effectivement, les personnages dont vous parlez gravitent tous autour d'une seule femme, qui est Florence, hein, et qui est au départ une femme dont les parents ne sont pas forcément des gens très fonctionnels, qui finalement se ramasse très seule dans la vie et qui finalement, à un moment donné, à l'adolescence, couche avec son copain. Et puis la première fois qu'elle fait l'amour avec son copain, elle a 15 ans et elle tombe enceinte. Oui. Voilà. Et donc, on est convaincu que le narrateur, qui est celui qui la cherche, est le fils, mais finalement, c'est pas tout à fait vrai.
Non, c'est ça, c'est ça.
Donc, j'ai tout bien compris.
C'est ça, on a mis des fausses pistes un petit peu.
Oui, mais c'est ça. Parce que, alors, il faut vous dire, moi, ce que je me suis dit en lisant ce livre, c'est que chaque histoire de chaque personnage qui est plus ou moins proche de cette Florence, j'insiste bien sur le plus ou moins, parce qu'il y en a qui sont proches d'elle, mais vraiment pas tous. On ne peut pas dire qu'ils ont tous un lien, mais moi, ce que je veux dire, c'est que chaque histoire est une nouvelle.
C'est ça, oui.
Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. C'est comme ça que je l'ai vu.
C'est comme ça que je l'ai écrit.
Et aussi. C'est comme ça que vous l'avez écrit.
Oui, tout à fait.
Bon, parce que j'ai pour habitude de ne rien en écouter ou de ne rien lire de tout ce qui s'est écrit ou dit dans d'autres entrevues. Donc, je ne savais pas. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai, que je l'ai senti. Je me suis dit, mais comment ça vous est venu, cette espèce de structure-là? Vous aviez envie de faire ça depuis longtemps?
En fait, j'ai lu « La main d'Iman » de Riyad Hassani Razaki, qui est un roman choral où il y a environ 6 personnages qui parlent d'un personnage, d'un autre personnage, donc d'un septième, qui ne parle jamais. Ouais. Et ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire un roman choral. Ouais. Et à ça, c'est ajouté, j'aime beaucoup les nouvelles, mais j'ai souvent une petite frustration qu'il n'y ait pas de lien entre les nouvelles. Ouais. Et je les cherche parfois, des fois j'en invente ou j'en force. Et donc, je l'ai abordé comme ça, un roman choral qui serait aussi un recueil de nouvelles avec un lien entre les histoires. Puis, veux pas, je l'ai écrit comme ça moi, mais quand on met un livre au monde, après, les lecteurs en font ce qu'ils veulent.
Oui,
et,
absolument.
Et donc, c'est devenu l'histoire de Florence pendant 20 ans.
Qui est toujours là, en filigrane. Hein,
c'est ça.
C'est vraiment ça.
Le point commun entre les narrateurs, dans le fond, c'est qu'ils ont tous, à un moment donné, rencontré Florence ou son fils dans leur vie.
Exactement. Et il y a des fois où j'étais un petit peu, pas perdue, mais j'imagine que je ne suis pas la première à vous le dire,
non.
Mais il y a des fois où on dit, mais attends, qui parle? Mais tout d'un coup, oups, ça devient clair. Ah, OK. Et il y a des fois aussi, je me dis, attends, lui, est-ce qu'on l'a déjà vu? Est-ce qu'il est déjà... Ah oui, je me souviens, OK, c'est le fils d'eux, etc. Mais c'est toujours bien fait parce qu'en fait, on n'est jamais perdu. Elle ne nous perd jamais, Sophie, bienvenue. Mais par contre, on est obligé de faire un petit effort quand même.
Oui, c'est sûr que j'ai des lecteurs qui m'ont dit qu'ils l'ont lu une histoire une journée, puis laissé passer 2-3 jours, et puis une autre histoire. Et ils ont dû le relire, en fait, pas forcément fois, mais peut-être en 2-3 fois, pour vraiment garder en mémoire tout ce qui se passe, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, que ce soit dans l'histoire des narrateurs, mais pour suivre le fil aussi de ce qui se passe dans la vie de Florence. Ouais.
Moi, j'ai eu de la chance, je l'ai lu en une matinée, donc je me suis installée, il était 8h du matin, je l'ai fini, il était 11h, et je me suis fait la remarque, je me suis dit, oh là là, c'est le genre de bouquin, tu peux pas le poser pendant une semaine, là, parce que là, mais rassurez-vous, auditeurs qui nous écoutaient de l'autre côté des ondes très fidèlement, on parle d'un livre d'à peu près 200 pages, donc ça se fait quand même très bien.
On peut continuer sa vie quand même.
Oui, absolument. Alors, en filigrane aussi, évidemment, Florence, mais aussi l'adoption.
Oui.
Il y a par exemple ce chapitre, ou plutôt cette nouvelle, moi, qui m'a bouleversée, de cet infirmier. D'ailleurs, on comprend mal ce qui vient faire là-dedans, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est lui qui va accoucher, finalement, Florence, parce que personne ne veut croire qu'elle est en train d'accoucher, mais elle est en train d'accoucher dans les urgences. Ah, et on comprend qu'il écrit lui-même à sa mère adoptive et qu'il ne lui enverra jamais les lettres.
Sa mère naturelle, en fait.
Sa mère, excusez-moi, sa mère naturelle, pardon. Oui. Et qu'il ne lui enverra jamais la lettre et il ne sait pas, lui, à ce moment-là, d'ailleurs, que cette fille va abandonner.
Non, pas
donc,
du tout.
Lui, il ne sait pas. Mais il y a cette phrase fantastique. Je me suis toujours demandé si tu m'aimais, toi, si tu avais repris ta vie normalement après m'avoir chié au monde, si tu avais pleuré, si tu m'avais donné un prénom dans ta tête, si tu nous avais imaginé une vie avant de m'abandonner à la famille roi. Je ne m'étais jamais fait à l'idée que j'aurais peut-être jamais de réponse. Fou, quelle écriture, hein. J'espère. Je vois mon ami Robert Chartier là à côté, oui. Qui est très très touché aussi. Vous allez avoir envie de tous les lire, les livres de Madame Bienvenue.
C'est ce que je me disais.
Il y a aussi, parce que bon, encore une fois, c'est bon, la maman qui se suicide, du moins, oui, le pense-t-on, mais il y a en page 63, le photographe. Moi, j'ai trouvé ça génial. Cette espèce de personnage qui, lui, est à la veille de quitter sa femme. Et donc, un matin, il ouvre, mais il a déjà installé un espèce de campement. Et là, il se demande comment est-ce qu'il va dire à sa femme ce soir-là.
Parce qu'il n'est pas vraiment malheureux.
Il
n'est
pas vraiment malheureux, c'est ça. C'est parce qu'il est tanné, quoi.
C'est ça.
D'ailleurs, il y a une belle phrase, hein. Vous dites, il a... « Oh, il n'y a rien qui me dérange. Entre nous, il n'y a rien à part 30 ans. » Quelque chose du genre. Et finalement, ben, il croise la vie de Florence, qui vient lui apporter des photos. Et c'est lui qui lui dit « Mais vous avez du talent. »
C'est ça. Qui lui dit « Mais c'est ça aussi que je voulais faire dans ce livre-là. » C'est parfois, on a peut-être une incidence sur la vie de quelqu'un, ouais, sans s'en rendre compte.
Ouais.
Et parfois, un petit quelque chose qu'on va dire ou qu'on va faire pour quelqu'un va avoir une importance énorme,
ouais,
dans la vie de cette personne. Et on croise parfois des gens sans s'en rendre compte. Et puis, ouais, ils remarquent quelque chose chez nous qui les fait changer. Enfin bref, c'est ça aussi.
Ouais.
Et c'est ça, cette histoire-là du photographe qui, lui, a son drame personnel et sans être conscient de ce qu'il va apporter à Florence, parce que Florence deviendra photographe.
Exactement. Et c'est d'ailleurs, elle va vivre un petit peu la même chose, entre autres, quand elle rencontre cet enfant dans un camp à Calais.
Mm-hmm.
Et c'est la misère totale, hein. C'est-à-dire, ces gens-là ont quitté leur pays pour être parqués littéralement près des autoroutes à Calais. Et il y a donc cette magnifique page aussi où elle rencontre cette gamine qui, au départ, entend parler des journalistes comme étant des gens pas bien, quoi,
ouais,
qui s'aperçoit que là, c'est pas le cas. C'est pareil, tout ce qu'elle va apporter, elle, à cette petite fille.
Oui, c'est ça. C'est
alors qu'elle a abandonné son enfant.
Oui, mais c'est aussi le si on se fie aussi à la date, son fils aurait
oui,
le même âge aussi. Donc,
oui,
c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans cette histoire-là, qui est une de mes préférées, d'ailleurs.
C'est vrai.
Cette histoire-là me touche,
ah oui,
particulièrement.
Moi aussi, beaucoup.
Je dois dire. Mais il n'y a pas non plus que des histoires,
non,
que des histoires tristes,
non,
ou difficiles.
Oh, le rôle de la Française. Oh, oh, ça, j'ai adoré ça. Il y a une Française là-dedans qui est complètement sautée et qui lui fait beaucoup de bien, d'ailleurs.
Oui, oui, mais parce que c'est quand même une histoire d'amitié à
mais
la
oui,
base.
Mais oui, mais oui.
Ce roman-là, avant de l'écrire, je l'ai dédié à mes amis.
Ouais.
C'est pas pour rien, parce que c'est finalement c'est l'amitié qui la sauve.
Ouais.
Donc
exactement,
c'est ça. Donc c'est pour ça que ce personnage là qui est basé sur une de mes amies, d'ailleurs,
c'est vrai,
c'est celui que j'ai eu le plus de mal à écrire, parce que même si je suis d'origine française, mon français, il est loin, je sais plus. Je devais l'appeler des fois. Comment tu dis telle chose, parce que j'ai plus aucune idée. Comment,
bah, je peux vous dire que c'est réussi, parce qu'il me semblait l'entendre. Et vraiment, il me semblait l'entendre. Il y a une fois où j'ai été un petit peu perdue et je me suis posé la question. Je me suis dit, faut que je demande.
Mais je suis là.
À Sophie, bienvenue. Le chapitre de la commode,
oui,
quand elle se fait aider, quand elle monte sa commode.
C'est pas Florence.
Alors c'est, bah bon, alors là j'étais perdue.
Je comprends. Bon. Vous êtes pas la seule. Vous êtes la deuxième personne à me dire,
ah,
à penser que c'est Florence qui déménage sa commode.
Et que c'est son fils.
C'est
et
son.
Qu'elle sait pas.
C'est ça. Mais non.
Non.
C'est quelqu'un d'autre. Florence parle seulement au dernier,
d'accord,
chapitre.
D'accord. Ok. Bon, mais là, j'ai vécu un petit peu de confusion. Je me suis dit, je vais lui demander. Votre écriture, je vous en avais déjà parlé, Sophie, bienvenue, quand vous êtes venue une première fois à l'émission. Elle a un sens de la formule qui est très, très fort. Ici, on est en page 89. J'ai trouvé un de tes cheveux dans le lit. ce sera plus jamais mon lit, ce sera toujours le nôtre. J'adore, moi, c'est, moi personnellement, ça me, je lis là, puis j'ai l'échine. Mais vraiment, c'est, je voulais simplement le remarquer pour que les gens se fassent une tête et aillent courir se chercher ce livre, que ce soit sur papier ou dans les oreilles. Et puis bon, donc c'est ça, il y a les personnages plus fugitifs, il y a les situations, il y a l'adoption en filigrane. Je pense au passage à la SPCA.
Oui.
Qui n'est pas larmoyant, qui est simplement, c'est ça qui est ça. C'est comme ça que ça se passe.
Oui. Il y a beaucoup dans ce roman-là aussi de personnages qui sont en train de changer de vie, en fait. Ouais. Qui sont sur le point de changer de vie. Et ils vont le faire ou non, ou qui ont changé de vie. Il y a la patronne du café, du bar, en fait, qui était architecte et qui, a du jour au lendemain, a ouvert un bar.
Oui. Pour aider les jeunes.
Pour aider les jeunes, c'est ça. Il y a ce gars de la SPCA qui est tanné de voir les animaux maltraités et qui part sur une île déserte avec son rat. C'est ça aussi, c'est des personnages aussi qui sont un point dans leur vie où, pas tous, mais la plupart vivent quelque chose. C'est un polaroïde, en fait, d'instant.
Oui, et vous avez raison, j'aime bien l'idée du polaroïde parce que c'est tellement vrai, surtout qu'elle est photographe.
Oui.
Il y a cette chanson que j'avais choisi qu'on en écoute un petit bout, Résiste, parce qu'elle est importante à un moment donné pour un des personnages. Puis d'ailleurs, je me suis dit que ça aurait pu s'appeler comme ça aussi, Résiste.
C'est vrai, mais c'est et moi, ce passage-là, en fait, c'est... Disons qu'il arrive à un moment dans le roman où on a besoin de respirer. Parce qu'il va se passer des choses plus graves et il s'est passé des choses plus graves avant. Et je devais donc parler de l'enfance d'Adrien. J'ai eu cette idée de faire un clip écrit.
Ouais.
Et j'ai imaginé un de mes amis qui est auteur aussi, peut-être il y a des livres qu'on peut écouter ici, qui s'appelle Simon Boulris.
Oui, bien sûr, oui.
Et ce qui est un personnage, quand vous le rencontrez en vrai, là, et je me suis dit, j'ai pensé à cette chanson, et je me suis dit, j'ai imaginé Simon dans la rue en train de danser dessus, et c'est ça qui a donné cette respiration, en fait, j'ai l'impression de bonheur au milieu du livre.
Il nous reste quoi, un petit 40 secondes. Je voudrais qu'on finisse par le début, par la citation du début que vous avez choisie. Elle est de Simone de Beauvoir. « Dans toutes les larmes s'attarde un espoir. »« Dans toutes les larmes s'attarde un espoir. » Parce qu'il y a l'amitié, mais il y a l'espoir aussi.
Il y a l'espoir, oui.
Et énorme.
Cette citation, elle aide beaucoup dans la vie aussi.
Exactement.
Oui.
Alors, aidez-vous, tiens, avec ce bouquin, lisez-le autour d'elle. D'ailleurs, lisez tout ce que Sophie Bienvenue a écrit, puisque tout est disponible au SQLA. Merci Sophie,
merci
à bientôt.
Merci d'avoir reçu.
Pour une troisième fois, hein, d'accord ?
Je reviens.
D'accord. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors Sophie Bienvenue, qui était une de nos deux invitées en première partie, est déjà sortie du studio, mais son ambiance et sa littérature sont encore bien présentes à nos oreilles, et j'ai entre les mains son livre Autour d'elle, dont je vais maintenant, bien comme je le fais à chaque semaine, vous lire un extrait. Nous sommes en page 89 et je reprends cette phrase que j'aime tant et que j'ai déjà citée en première partie, qui commence par « J'ai trouvé un de tes cheveux dans le lit. Ce sera plus jamais mon lit. Ce sera toujours le nôtre. Comme ma vie. Je te l'ai donné. Maintenant, elle est à nous, mais t'en veux plus. Fait qu'elle n'est plus à personne. Je te vois encore tirer sur ta cigarette. Et je t'entends me dire que tu me trouves trop intense, que je suis beau, que je capote, ou de faire ce que je veux. Rien que ta voix partout, tout le temps. La ville te crie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu reviennes? Pourquoi tu me fais ça? Comment t'as pu prendre toute cette place et disparaître en un claquement de doigts? Me dis pas que t'as rien vu venir, ça marche pas nous deux, Jeff. Que t'as dit en mettant ton côte? T'as frappé sur ta cuisse pour que Brassaille te suive Il s'est levé du sofa, s'est étiré sur le tapis du salon où tu laissais tout le temps traîner tes magazines de photos puis tes notes de cours, et il t'a suivi, tout doucement. T'as penché la tête sur le côté, l'air de lui dire « Ah ouais, grouille-toi, j'ai pas envie que cette hostie de rupture-là s'éternise. Je l'ai jamais vraiment aimé, ton chien, moi je préfère les chats. Mais j'ai pensé que tu pouvais pas partir avec lui. J'aurais voulu que tu me laisses pour garder au moins une partie de toi, pour pouvoir espérer que t'allais lui rendre visite en garde partagée, genre, pour faire comme si t'allais revenir. Je t'ai demandé où t'allais et tu m'as dit que j'avais pas besoin de savoir et que t'étais désolée. Sincèrement. T'as ouvert la porte contre laquelle on avait fourré une fois avant que t'emménages ici. T'as fait une pause et t'as ajouté « J'y ai vraiment cru à nous deux, tu sais. » Un château de sable qui s'écroule, j'étais. Je suis restée debout alors que tout mon corps se dérobait sous moi. Je glissais dans les craques du plancher. Je coulais chez les voisins du dessous. Je voulais te courir après, te crier que je t'aimais, mais il n'y avait plus rien en moi qui avait de la substance. Je t'aime. Je te dis que j'ai rien vu venir. Laisse-moi mentir. 5 minutes. J'arrive pas à croire que je te verrai plus hausser les épaules pour signifier que quelque chose n'est pas grave. Avec toi, rien n'est jamais grave. Parce que tu vois tout au travers de ta crise de lentilles qui te sert de bouclier. Peut-être que c'est efficace contre l'armée de démons que tu traînes. Mais ça fait surtout le vide autour de toi. Et essaie pas de me faire croire que t'aimes ça. Crois pas que je l'ai jamais vu, ta solitude. Va pas t'imaginer que t'as réussi à me la cacher. Tu penses que j'ai pas remarqué que c'est des larmes que t'as dans les veines et pas du sang? Tu peux jouer la comédie à tout le monde, mais pas à moi. Je sais qui t'es. J'aurais pu te protéger. Si ça avait pris une machine à voyager dans le temps pour effacer ton passé tout croche et que tu sois bien, j'aurais trouvé un moyen de la construire. Pourquoi t'as pas été capable de déposer ta tête? Pourquoi j'étais pas suffisant? T'es une hostie d'égoïste, c'est ça l'affaire. Je t'haïs, t'as aucune idée à quel point je t'haïs. T'es incapable d'aimer qui que ce soit à part ton crise de chien. Si tu devais choisir entre l'avenir de l'humanité et lui, c'est sûr que tu le choisirais. Puis tu serais bien, c'est ça le pire. Seul rescapé de l'hécatombe, t'aurais plus besoin de te protéger de personne. Hostie de guerrière à marde. Tu continues à te battre contre qui? T'espères sauver quoi à coup de Kodak? Je t'ai jamais rien fait, moi. Tout ce que je voulais, c'était que tu me laisses t'aimer. T'entendre rire parce que t'es bien. T'avais peur, c'est ça l'affaire. Tu voulais pas t'attacher parce que c'est trop dangereux à cause de ta famille de marde, de ta mère suicidaire rendue dans une secte ou whatever, de ton père qui se sacre de toi puis qui boit et je sais pas quoi d'autre que tu m'as jamais avoué. Tu sais quoi? Peut-être qu'ils ont eu raison de t'abandonner. Peut-être que tu mérites pas qu'on t'aime parce que t'es brisé et que tu détruis tout ce que tu touches. Un ange de la mort, c'est ça que t'es. Si ça se trouve, c'est à cause de toi qu'elle est rendue folle, ta mère. Je t'haïs, Callis. Callis que je t'haïs. Mais reviens. J'espère que ça vous donne envie de le lire, ce bouquin. Ah là 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 là, Autour d'elle de Sophie Bienvenue, je m'en suis régalée. Vous savez quoi même, je vais le relire parce que je l'ai lu rapidement pour préparer l'émission. Donc je l'ai lu comme bout à bout comme ça. Mais là, maintenant, je vais prendre le temps de le relire et ça va me faire le plus grand plaisir. Et je me tourne vers mon ami Robert Chartier, bénévole, première occasion de venir à cette émission.
En tout cas, je mentirais si je vous disais que je n'étais pas énervé par la situation.
Tout va très bien se passer.
Ben oui.
Moi, je vous connais un petit peu, Robert, quand même, dans la vie. Puis je sais que, surtout le livre dont vous allez nous parler, qui est quand même un livre qui a fait beaucoup parler de lui.
Oui.
On nous a dit à tous, il faut lire ce bouquin. Voilà. Alors, vous l'avez lu pour nous. Est-ce que c'est vous qui l'avez lu ici?
Oui.
Ah,
et
vous l'avez...
Et c'est pour ça que, lorsque vous m'avez demandé de venir parler d'un livre que j'avais lu, c'est tout de suite celui que j'ai choisi. D'ailleurs, c'est le premier que j'ai lu en tant que bénévole.
C'est
ici.
Vrai.
Wow. Et je me suis trouvé gâté là, par la situation.
Je vous laisse le soin de nous le présenter, Robert.
Alors, un petit mot sur l'auteur qui s'appelle Eugène Ovidiu Cirovici. C'est un écrivain d'origine roumaine. né en 1964. Il est l'auteur de best-sellers dans son pays. Dans son pays seulement. Tous ses romans qu'il a écrits en roumain ne sont pas connus ici. Jules Miroir, c'est son premier roman écrit en français, de l'anglais. Il l'a écrit en anglais parce qu'il est basé à Londres.
Ah, OK. Mais donc, c'est une traduction.
Oui. C'est traduit, puis c'est le premier aussi qui a été traduit en français. Là,
d'accord.
Qu'on peut lire de lui ici.
Une bonne traduction, vous trouvez, Robert?
Oui.
Correct?
Oui.
Oui,
oui,
bon.
Oui. C'est, okay. Ça se lit très bien. Puis, c'est prenant. Là, comme, alors, l'histoire, c'est un agent littéraire d'une importante maison d'édition qui s'appelle Peter Katz, qui reçoit la première partie de manuscrit que lui envoie pour fin de publication, dénommé Richard Flynn. Puis ce manuscrit l'intrigue immédiatement. Et c'est en fait l'autobiographie ou une partie de la vie de Richard Flynn qui raconte la version des événements qui ont conduit à l'assassinat du célèbre professeur en psychologie cognitive nommé Joseph Ryder. 20 ans plus tôt, en 1987, à la fin décembre 1987, il avait été sauvagement battu à coups de batte de baseball. Du moins, c'est ce que l'enquête à l'époque avait déterminé. L'auteur de ce crime n'a jamais été retrouvé, mais cette histoire avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Donc, Peter Katz, qui reçoit ce manuscrit, croit détenir... la matière d'un immense best-seller.
Ouais, ouais.
Puis, là, il lui faut retrouver la dernière partie du manuscrit parce que ça, c'en est seulement la première partie. Il engage un journaliste d'enquête nommé John Keller à qui il donne la mission de retrouver le manuscrit, la deuxième partie, ou sinon même de rédiger lui-même la fin de l'histoire, d'en inventer une. Alors, la première partie du roman, on fait la lecture du fameux manuscrit.
D'accord.
On y apprend que Richard Flynn, alors jeune étudiant à Princeton, tombe amoureux de sa colocataire, Laura Baines, qui, elle, est étudiante et collaboratrice de Joseph Ryder, éminent professeur, comme je l'ai dit, en psychologie cognitive.
Oui.
Elle va présenter Richard Flynn à Joseph Ryder qui va engager Richard Flynn pour l'organisation de son importante bibliothèque qu'il a chez lui. Alors voilà, toute cette partie raconte en gros les liens entre ces trois personnages.
D'accord.
Et puis voilà, puis ça pose les jalons pour la suite de l'histoire. John Keller.
La seconde partie.
Oui. John Keller, donc le journaliste que. Monsieur l'éditeur, l'agent littéraire trouve.
Peter Katz,
oui.
Là, c'est ça?
Peter Katz, oui. Le journaliste d'enquête, il va partira de cette histoire pour remonter le fil des événements.
D'accord.
Bon, c'est ça.
D'accord.
Entre-temps, Richard Flynn meurt d'un cancer. Puis la deuxième partie du manuscrit demeure introuvable. Donc, en tout cas.
En gros, c'est ça. C'est-à-dire que. Mais quand on parle d'effet de miroir, de jeu de miroir, c'est un jeu de miroir, on se réfère à quoi? Je veux dire, c'est un titre qui fait référence à quoi dans ce texte-là,
ben, finalement,
Robert?
C'est une histoire qui, somme toute, en tout cas, c'est tout un écheveau de personnages qui ont... plus ou moins à faire avec cette affaire d'assassinat.
Oui,
finalement, on se demande, là, tu sais, on navigue là-dedans, puis les personnages se renvoient d'image en image.
Oh, OK, oui, d'accord. Donc, d'où le jeu de miroir.
Le jeu de miroir, c'est comme un écheveau, là, puis...
Avez-vous un extrait pour nous?
Oui, certainement. Ben, c'est un extrait du courriel que Richard Flynn avait envoyé à Peter Katz pour lui présenter son manuscrit.
D'accord,
et
parfait.
Qui a captivé finalement Peter Katz. Alors, voilà. Il y a quelques mois, j'ai fait une découverte importante qui m'a remis en mémoire une série d'événements dramatiques survenus au cours de l'automne et de l'hiver 1987, pendant ma dernière année à Princeton. Vous croyez avoir oublié quelque chose, un événement, une personne ou une situation, et puis, brusquement, vous vous rendez compte que vos souvenirs prenaient la poussière dans un recoin de votre esprit, mais qu'ils ont toujours été là, aussi nets que s'ils dataient de la veille. Vous voyez ce que je veux dire? Une image me vient à l'esprit. Vous sortez un objet d'un vieux placard bourré de rebuts et tout vous tombe dessus d'un coup. C'est exactement ce qu'il s'est produit. Cette révélation a eu sur moi l'effet d'un détonateur. Une heure après, je réfléchissais toujours à sa signification. Je me suis assis à mon bureau et, submergé par les réminiscences, j'ai commencé à écrire. Il était plus de minuit quand j'ai arrêté et j'avais déjà tapé plus de 5000 mots. J'avais l'impression de me redécouvrir après m'être complètement oublié. Au moment de me brosser les dents, il m'a semblé voir une personne différente dans la glace. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me suis endormi sans avoir pris de somnifère. Le lendemain, après avoir appelé l'agence pour dire que j'étais malade et que je serais certainement arrêté 2 semaines, je me suis remise à mon texte. Les détails de ces mois de 1987 me sont revenus avec une telle force et une telle acuité qu'ils sont rapidement devenus plus prenants que la réalité de mon quotidien. C'était comme si j'émergeais d'un long sommeil, durant lequel mon esprit s'était secrètement préparé au jour où je raconterais ces événements impliquant 3 protagonistes. Laura Baines, le professeur Joseph Ryder et moi. Bien sûr, compte tenu de son dénouement tragique, l'histoire a été relatée par les journaux de l'époque, du moins en partie. J'ai moi-même été harcelé par des journalistes et des inspecteurs de police pendant un bon moment. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a poussé à quitter Princeton pour aller terminer mes études à Cornell, où j'ai passé 2 longues années sinistres. En attendant, personne n'a jamais appris la vérité à propos de ces faits qui ont changé ma vie à tout jamais.
La table est mise, hein, comme on dit. C'est vraiment l'extrait qui va nous permettre de comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte? Est-ce que qui a assassiné? Pourquoi? Etc. Bon, alors, et tous les protagonistes...
Je laisse au lecteur ou à l'auditeur le soin de découvrir la fin de l'histoire.
Merci beaucoup. Je vous rappelle que cette nouvelle voix à l'émission, celle de Robert Chartier, c'est celle de Robert Chartier qui est venue nous présenter ce livre dont on va rappeler le titre, « Jeu de miroir ». De Eugène Ovidiu Cirovici, on va l'appeler comme ça, ça s'appelle Chirovici. Et vraiment un best-seller qui a été traduit dans une quarantaine de pays. Alors, un livre important. Merci beaucoup, Robert.
Ça me fait plaisir.
Allez, bonne fin de journée et à la prochaine. Et on retrouve avec grand plaisir une jeune personne qui travaille au SQLA, qui en est la bibliothécaire ou une des bibliothécaires.
Une des bibliothécaires.
Une des bibliothécaires, donc du service québécois du livre adapté, hein, celui pour lequel nous travaillons d'arrache-pied ici à Vues et Voix et pour lequel aussi travaille oui. d'arrache-pied Hélène Gauthier qui est ici pour nous présenter justement quelques nouveautés. Vous savez, moi, plus on vous présente de livres et plus on est content à cette émission. Là, c'est pour vous donner des envies et des idées de lecture via les oreilles. Alors Hélène nous arrive avec une jolie petite liste de livres qu'elle nous présente maintenant.
Oui, je me suis gâtée ce mois-ci. Donc, le premier livre dont je voulais vous parler, je voulais en parler la dernière fois et je n'ai pas eu le temps. Donc, j'en profite aujourd'hui. C'est « La traversée du Colbert de Gaulle au Québec en juillet 1967 », écrit par André Duchesne. Je veux aussi préciser que tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui sont disponibles en téléchargement et le sont déjà sur CD ou le seront éventuellement.
D'accord.
Ce livre parle de la visite du président de la République française, Charles de Gaulle, en 1967 à Montréal, où il est sorti sur un balcon,
oui,
a
ben
prononcé
oui.
les fameux mots « Vive le Québec libre ». Tout le monde... La plupart des gens connaissent cet événement, mais ici, André Duchesne s'attarde plutôt à tout ce qui a entouré cette visite. Une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'était que c'était tout de même hors de l'ordinaire que Charles de Gaulle arrive à Montréal et non pas à Ottawa. en tant que représentant d'un pays. Donc, tout le va-et-vient diplomatique qui entourait ça. Le Colbert, c'est le croiseur à bord duquel il a traversé le Saint-Laurent pour expliquer, pour justifier son arrivée à Montréal plutôt qu'à Ottawa, parce que s'il était venu en avion, il aurait atterri à Ottawa. Mm-hmm.
Donc, vous avez dit le Saint-Laurent, vous voulez dire l'Atlantique.
Mais l'Atlantique, et puis il a monté le Saint-Laurent.
Ah oui, après, ils ont... il est arrivé par le Saint-Laurent.
Donc, on parle de ces événements, les préparatifs du voyage. Il y a beaucoup d'anecdotes. Uh-huh. C'est presque présenté comme un thriller. Tout ce qui entoure cet événement. Donc, plusieurs petites anecdotes. Je voulais vous partager une de mes préférées. Mm-hmm. On y apprend que la première voiture qui fut soumise aux organisateurs, c'était une Cadillac bleu poudre à l'intérieur blanc. Donc, lorsque ça a été vu, on a jugé que c'était un peu quétaine pour le président de la République. Donc, on a fini par dénicher une Lincoln à Oakville, en Ontario. Donc, une citation ici d'André Duchesne pour décrire cet événement. Donc, le président de la France, en voyage au Québec, se déplacera dans une voiture américaine dénichée en Ontario. C'est ça, le Canada.
Ah oui, mais remarquez, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Le bonhomme, il arrive à Montréal, plutôt qu'à Ottawa, mais ils vont lui dénicher une voiture en Ontario.
En Ontario, il n'y en avait pas ici.
Chercher l'erreur, mais oui, d'accord.
Donc ensuite, on va se déplacer toujours en politique, mais quelque chose de plus récent chez nos voisins du Sud. Ça s'est passé comme ça, dit Hillary Rodham Clinton. On l'a enfin maintenant disponible au SQLA. On en a beaucoup parlé lorsqu'il a été publié l'année dernière. Donc, enfin, vous pouvez le découvrir. J'ai eu le plaisir de le lire l'année dernière. C'est très intéressant. Oui. Hillary Clinton, plus libre que jamais. Ce n'est pas son premier livre, mais enfin, elle peut se laisser aller.
Est-ce qu'on a l'impression qu'elle est assez libre pour dire toute la vérité, rien que la vérité?
Je dirais pas à 100%, mais peut-être à 90.
Oui.
Mais il faut dire que peut-être qu'elle a encore plus de secrets qu'on l'imagine.
Oui.
Mais c'est très intéressant. On est toujours concerné par ce qui s'est passé lors de cette élection. Donc, le voir de son point de vue, sentir son désespoir, sa rage, c'est très touchant. Puis aussi, l'aspect, les gens qui vont la voir, les femmes qui lui parlent, qui lui font part de leurs espoirs. C'est pas déprimant. Ça laisse sur une touche d'espoir.
Bon. Alors, donc, le livre de Mme Hillary Rodham Clinton, ça s'est passé comme ça. D'autres suggestions?
Oui, donc ensuite, Underground Railroad, le titre est en anglais. On n'a pas traduit le titre de Colson Whitehead, un de mes coups de cœur de 2017. Donc, ça parle ici, c'est historique, le Underground Railroad, le chemin de fer clandestin. C'était un réseau de routes secrètes qui a été utilisé par des esclaves noirs américains avant la guerre civile aux États-Unis pour se réfugier au-delà des lignes Mason-Dixon jusqu'au Canada. Donc, des esclaves s'enfuyaient et utilisaient ces endroits cachés, ces routes secrètes. Donc, on ne parle pas ici vraiment d'un vrai chemin de fer souterrain, mais l'auteur, Colson Whitehead, lui, le transforme en vrai chemin de fer souterrain. Donc, un petit peu de réalisme magique, Gabriel Garcia Marquez. Donc, ici, on a une jeune esclave de 16 ans qui vit sur une plantation, qui s'enfuit, qui utilise ce chemin de fer, qui se trouve à différents endroits à travers les États-Unis. On va au Tennessee, on va en Géorgie, découvre différentes communautés de personnes noires. Donc, on parle aussi de familles qu'on se crée, familles qu'on a perdues. Ouais. C'est un livre extrêmement touchant. Il a gagné le prix Pulitzer de fiction l'année dernière. Donc, je le recommande grandement.
Alors, Underground Railroad, c'est très, très dur à dire pour une Française, hein, d'avoir plein de patates chaudes comme ça dans la bouche. Mais j'espère que je l'ai bien eu. j'aimerais beaucoup, j'ai un livre pour vous dont je voudrais que vous nous parliez parce que je sais que vous voulez nous en parler. C'est le livre de Gilles Vigneault, Un cadeau pour Sophie.
Oui, donc un petit cadeau pour nos lecteurs plus jeunes.
OK, c'est ça, c'est un livre jeunesse.
Oui, c'est qu'on le présente en duomédia, en braille intégral, en ligne, en livre sonore. Donc, c'est un livre qui est très court. C'est un petit conte de Gilles Vigneault qui est lu par James Hindman, mais on offre aussi des chansons de Gilles Vigneault qui sont chantées par différents artistes québécois. Donc, on a Francis Cabrel, Ariane Moffatt, Pierre Lapointe, etc. Donc, 9 chansons en tout. Le conte parle d'amitié, de vieillesse, de mort, de printemps. C'est Gilles Vigneault, évidemment.
Mais
c'est,
oui.
C'est poétique.
Je rêve d'avoir en studio, évidemment. Donc, oh, ben oui, non, c'est pas... Regardez, j'en ai eu des pires. Hein.
Il faut rêver.
Ah oui, non, mais évidemment que je vais rêver. Et est-ce qu'on a encore une petite minute, monsieur, de l'autre côté? Ah oui, celui-ci, je l'ai sur mon bureau. C'est Le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood.
Oui, c'est pas son dernier, mais non. C'est le dernier que nous avons.
Voilà,
oui,
c'est ça.
C'est son avant-dernier, c'est paru en 2015, The Heart Goes Last. Donc, encore une fois, c'est Margaret Atwood qui est revenue sur dans l'imaginaire des gens, je dirais, dans les dernières années, à cause de deux séries télévisées.
Mais oui.
La Servante Écarlate et Captive, Alias Grace, qui est sur son Netflix. Donc, c'est toujours dans le même univers. Si vous en voulez encore plus, c'est cet univers Margaret Atwood qui est toujours dans la dystopie. La satire, les relations hommes-femmes. Donc, on parle ici d'un couple qui a été vraiment touché par la crise économique aux États-Unis. On est dans un futur quand même qui pourrait être proche. Hein?
Oui,
donc,
oui.
Donc, ils perdent tout. Ils tentent de survivre et ils se font offrir de vivre dans une très belle maison, tout inclus, c'est merveilleux, un mois sur deux. Et le deuxième mois, ils doivent être en prison. Donc, on échange comme ça. Et ils se disent que c'est mieux que rien. Mm-hmm. Donc, ils se lancent dans cette expérience. Mais le mois où ils ne sont pas dans leur maison, il y a un autre couple qui prennent leur place. Ils échangent. Et donc, les deux personnes dans ce couple deviennent obsédées avec le couple qui prend leur place dans la maison. Donc, ce va-et-vient, c'est très, très intriguant. Donc, pour en savoir plus, il faut l'écouter.
Alors, ça, c'est Le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood. Je sais que vous aviez sûrement d'autres titres à nous proposer, mais malheureusement, pour aujourd'hui, c'est tout le temps qu'on a, mais ça va vous donner l'occasion de revenir,
Exactement.
Hélène. Ça va nous faire grand plaisir toujours de vous accueillir. Hélène Gauthier, qui est bibliothécaire au SQLA, le service québécois du livre adapté. À la lumière de ce que nous savons, ces deux IA et Der Rayman, dont Madame Sophie, bienvenue d'ailleurs, nous a parlé un petit peu plus tôt, elle nous a parlé d'un livre de cet auteur. C'est un livre fleuve, nous dit un lecteur, aux si nombreuses entrées qu'il faut sans doute plusieurs lectures pour en appréhender toute la substance. Roman de l'exil, roman d'amour, roman politique, roman d'espionnage, bien oui, c'est tout cela en même temps. Un personnage et son double, un ami qui vient se confier à lui pour une raison mystérieuse que l'on découvrira mais seulement à la fin du livre. De Londres à Kaboul, de la naissance du Bangladesh à la crise des subprimes, on disait, je pense plutôt, l'auteur nous mène à un train d'enfer, semble-t-il, sur la quête du sens de la vie, dans un univers sans plus de repères, confronté à une mondialisation effrayante. À la lumière de ce que nous savons, de Zia Eder Rahman, R-A-H-M-A-N. D'où viennent les vagues? De Fabio Genovesi, G-E-N-O-V-E-S-I. Donc le titre « D'où viennent les vagues ?» Je vous le redis parce que je trouve le titre tellement beau. Et le résumé qu'on nous en fait, on nous en dit ceci. Il y a des vagues qui viennent bousculer pour toujours les eaux calmes de la vie. Celle de Luna, une petite albinos aux yeux si clairs qu'elle ne peut voir le réel. Celle de son frère Luca, grand surfeur qui sillonne les vagues et traîne tous les cœurs derrière lui. Celle de leur mère qui pense que l'amour n'existe plus. Celle d'un mystérieux enfant arrivé de Tchernobyl qui parle un italien suranné. Et celle de tant d'autres personnages qui sont au cœur de ce roman débordant d'histoires pleines d'une grâce amère et tendre. D'où viennent les vagues de Fabio Genovesi. Ça fait au moins trois fois qu'on l'enterre, mais ça fait trois fois qu'il renaît de ses cendres. Jean-Paul Belmondo, d'ailleurs, qui est à la veille de tourner dans un autre film, dans un nouveau film. Alors, sur un fil entre deux immeubles, de l'aile d'un avion au toit d'une voiture ou d'un métro, Belmondo a pris tous les risques. Des années plus tard, il en rit encore, l'œil brillant, ses éclats de rire tonitruants. Il s'en est toujours servi pour garder ses secrets, sa vie, ses rencontres, sa famille, ses amours, ses joies immenses. et ses peines les plus grandes. Et bien aujourd'hui, Jean-Paul Belmondo a décidé de les raconter dans un livre qui s'intitule « Mille vies valent mieux qu'une » et c'est désormais disponible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà reçu Denise Bombardier à cette émission-là et on avait eu, ma foi, beaucoup de plaisir avec Madame Bombardier. Là, elle nous arrive avec « Plus folle que ça, tu meurs ». Folle, c'est au pluriel. Elle nous parle de ces femmes qui s'approchent à reculons de la soixantaine. Elles, ce sont des battantes, des femmes libérées. Les luttes de pouvoir avec les mâles sont leur terrain de jeu. Elles n'ont pas froid aux yeux, mais la nuit, seules dans leur grand lit, bien ces femmes-là, elles angoissent, elles cherchent l'homme idéal, autrement dit, elles rêvent. Alors l'héroïne de son bouquin est une avocate prospère que son mari a quittée pour une Écossaise docile. Sa fille lui fait payer le prix de sa réussite en lui reprochant de ne pas assumer sa fonction maternelle. Elle est entourée d'amis à l'amitié épuisante. Alors voilà le genre de femme que vous allez rencontrer dans ce livre de Denise Bombardier. Plus folle que ça, tu meurs. Et ainsi se referme cette émission des livres pleins les oreilles pour cette semaine. Je voudrais remercier infiniment, mille fois plutôt qu'une, les invités Gérard Saint-Denis, Sophie Bienvenue, Robert Chartier et Hélène Gauthier. C'était Clotilde Seille à l'animation de cette émission qui, bien sûr, remercie son camarade et acolyte Mathieu Tessier et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne lecture tout le monde. Salut.